Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, Saint Jean Bosco voulait que le jeune collabore à sa propre éducation. Et de fait, c'est ce que nous voyons chez Saint Dominique Savio, Michel Magon, enfin tous ceux dont il a écrit la vie, et c'est ce qu'on remarque dans tous ses écrits. L'éducation chrétienne est un sommet entre deux ravins. D'un côté, le ravin qui exige un accomplissement extérieur de ce qui est demandé, une obéissance matérielle, et qui ne cherche pas à obtenir l'adhésion intérieure du jeune. De l'autre côté, et prétendue éducation qui, sous prétexte de former à la liberté, laisse le jeune très indépendant, en sorte qu'on lui fait trop confiance. Ces deux éducations mauvaises peuvent coexister. Nous avons cela aujourd'hui, des parents qui laissent des jeunes très autonomes sur certaines choses, et qui, à côté de cela, demande une exécution matérielle, une obéissance matérielle sur un certain nombre de points qui ne sont pas d'ailleurs toujours essentiels, mais parce que les parents estiment que c'est important pour eux. Inutile de vous dire qu'on forme des hypocrites. À quel âge un jeune est-il majeur ? À 7 ans, l'âge de raison, pour les choses essentielles. À 7 ans, il se confesse, il communie, il croit en la Sainte Trinité, il aime Jésus de tout son cœur, etc. À 12 ans, il devient pénalement responsable, 12 ou 14 ans, ça dépend des législations, c'est-à-dire qu'on estime qu'il se rend suffisamment compte de ce qu'il fait pour répondre de ses actes devant la justice. Et puis ce n'est qu'à 21 ans qu'il a le droit de poser tous les actes de la vie courante sans avoir besoin de l'autorisation de son père. Oui, je sais, 21 ans, c'était autrefois le code civil, mais c'est également le code de droit canonique traditionnel, le seul que nous reconnaissons, parce que le code moderne, là encore, a détruit beaucoup de choses en affirmant que le jeune est majeur à l'âge de 18 ans. Bref, un jeune est majeur très tôt pour les choses essentielles et tard pour les choses qui supposent de l'expérience. Et nous avons tendance à considérer l'inverse. Que les choses essentielles sont très élevées et qu'il faut une grande maturité pour les pénétrer, et que les choses qui supposent de l'expérience sont très simples, acheter un billet de train ou dépenser 50 euros, que sais-je, et que cela peut se faire très tôt, de façon autonome, ce qui n'est pas vrai, parce que, justement, il faut de l'expérience. Reprenons donc la collaboration du jeune à sa propre éducation suivant les différents âges. Avant l'âge de raison, l'enfant a une intelligence et une volonté, il n'est pas un petit animal. Seulement il n'a pas la raison, c'est-à-dire qu'il ne se projette pas dans l'avenir, il vit dans l'immédiat et il n'est pas capable d'analyser en profondeur, c'est-à-dire de voir le but ultime de la vie. Il ne se projette pas dans l'avenir, il vit dans l'immédiat, mais cet immédiat doit être chrétien. Et s'il n'a pas l'âge de raison, il a déjà l'âge de la foi. La raison suppose de connaître les tenants et les aboutissants pour adhérer aux vérités, de comprendre le pourquoi des choses. La foi, elle, il lui suffit d'adhérer à l'autorité de Dieu pour adhérer à toutes les vérités et admettre et recevoir toutes les vérités que Dieu enseigne. Démontrer l'existence de Dieu n'est pas à la portée d'un jeune, mettons avant l'âge de 14 ans. Mais admettre que la Trinité est un seul Dieu en trois personnes, cela, c'est à la portée d'un enfant, même avant l'âge de raison, parce que ce que dit le bon Dieu est vrai, et le bon Dieu a mis dans son âme par le baptême une capacité à recevoir instinctivement les vérités qui sont révélées par Dieu et enseignées par l'Église. Donc avant l'âge de raison, il faut montrer le bon Jésus sur la croix, il faut montrer la bonne Sainte Vierge, la Sainte Trinité, on ne s'étend pas trop dessus parce que ça ne peut pas être mis en image non plus. Il faut dire que le bon Jésus sur la croix, c'est le bon Dieu, qu'il est venu nous sauver, que les hommes n'aimaient pas Dieu, c'était ça le péché, et que grâce à Jésus maintenant, les hommes peuvent aimer Dieu en retour de l'amour que Dieu a pour eux. Des considérations très simples, mais qu'il faut faire. D'un point de vue du comportement moral, il faut non seulement ne pas céder aux caprices, mais les corriger. Par exemple, participer sans bouger aux prières familiales ou à la messe. Il y a de nombreuses chapelles où on trouve une pièce vitrée dans laquelle les mamans peuvent se mettre avec les enfants pour assister à la messe, de façon à ce que les enfants puissent jouer, bouger, voire même manger des gâteaux, sans déranger personne. C'est anti-éducatif au possible. On favorise le caprice pour avoir la paix, et le caprice dans une action sainte, parce que l'enfant, puisque la pièce est vitrée, voit très bien qu'il n'est pas à la maison et qu'il est dans un lieu sacré. Non, il faut le mettre au premier rang dans la chapelle ou dans l'église, et puis s'il dérange, alors le père sort, donne une petite tape pour faire comprendre qu'il n'admettra pas de caprice. Si l'enfant pleure, on le laisse pleurer à l'extérieur. Et encore, il n'est pas toujours bon de laisser un enfant pleurer. On peut lui demander d'arrêter de pleurer, parce que pleurer, c'est souvent aussi du caprice, pas toujours, mais souvent. Et puis on rentre dans l'église, et il se tient bien. Et l'expérience montre que cela est tout à fait possible. Étant donné qu'un enfant avant l'âge de raison vit dans les images, enfin ce qu'il voit, ce qu'il entend, il y a une importance particulière du bon exemple, montrer le bon exemple, de la part des parents, des maîtres, des frères et sœurs, des camarades. Les parents ne peuvent pas se permettre devant leurs enfants, surtout petits, des choses que ceux-ci ne peuvent pas imiter, qu'il serait mauvais qu'ils imitent. On arrive à l'âge de raison, et là, l'enfant sait pourquoi il accepte et il reçoit les vérités éternelles. C'est une conviction. L'âge de raison, c'est l'âge de la communion privée, qui est fixé à 7 ans habituellement, mais qui assez souvent précède un peu. Puisque la foi se développe, il faut l'enrichir en donnant des connaissances, en donnant le catéchisme, mais toujours en donnant peu d'explications, plutôt en montrant les choses. Il faut lire les récits de l'Évangile, les récits bibliques aussi. Quant à la pratique morale de la vie chrétienne, il faut être attentif à éviter le péché, pas empêcher le jeune de tomber dans le péché, mais le rendre, lui, attentif à éviter le péché et à pratiquer les actes de vertu qui sont indiqués par l'éducateur. Le jeune ne sait pas bien encore ce qu'il a à faire, mais il sait qu'il doit le faire par amour de Jésus et par obéissance. Et il faut exiger l'obéissance parce qu'elle est le moyen, en se confiant à l'éducateur, parce que c'est ça l'obéissance, on fait les choses parce qu'on a confiance en lui, qu'en se confiant à l'éducateur, on se confie à Dieu. Il faut rappeler que l'enfant Jésus obéissait à la Sainte Vierge et même à Saint Joseph. C'est l'âge où on développe le sens de la présence de Dieu. L'obéissance doit être parfaite, mais pas comme celle d'un esclave, mais comme pénétrée de la présence de Dieu. Dieu me voit. Si je désobéis et que papa ne me voit pas, Dieu, en tout cas, lui, me voit. Voilà ce que le jeune doit se dire, et on doit le lui rappeler. Maman Marguerite le rappelait très souvent à Saint Jean Bosco, et Saint Jean Bosco l'a rappelé très souvent au jeune. Pour fuir le péché, il faut des adages très simples, et notamment cet adage qui est une résolution de Saint Dominique Savio, « La mort, mais pas le péché ». On se rappelle la phrase de Blanche de Castille à Saint Louis, « Je préférerais que vous fussiez mort plutôt que coupable d'un seul péché mortel ». Et du coup, on croit que ce qu'il faut absolument éviter au prix de la mort, c'est le péché mortel. Mais il faut bien se rendre compte qu'il vaut mieux préférer la mort plutôt que n'importe quelle désobéissance à Dieu, fût-ce un péché véniel, de propos délibéré, bien entendu. De propos délibéré, ça veut dire fait exprès, en connaissance de cause, voulu. Saint Jean Bosco ne dit pas la mort plutôt que le péché mortel, il dit la mort mais pas le péché. Les péchés véniels de propos délibérés sont une plaie pour l'âme, et à cet âge, ils laissent une cicatrice difficile à guérir. On dira que c'est une éducation exigeante, et donc difficile. Non, je vous ai dit avec Saint Jean Bosco que l'éducation était très facile pour peu qu'on travaille avec le bon Dieu. Évidemment, il faut ne pas être moralisateur, et puis il faut éviter la méthode répressive décrite par Don Bosco, qui consiste à punir à chaque fois qu'il y a une faute. C'est évident que cette méthode finit par casser le jeune. La méthode préventive, elle, montre l'importance de l'obéissance par amour de Dieu et en raison de la présence de Dieu, l'importance de fuir le péché, et forme le jeune à obéir et à fuir le péché. Et en cas de désobéissance, il vaut souvent mieux plutôt que de se fâcher, de faire un acte de contrition à l'enfant. Mon Jésus, je vous demande pardon d'avoir désobéi, je vous promets que je vais faire des efforts pour ne plus désobéir. Et puis, on trouve dans la vie des saints des récits de saints enfants qui ont obéi soigneusement, fidèlement. L'âge de la communion privée jusqu'à l'adolescence, c'est l'âge où l'on doit rappeler aux jeunes que la vie se termine par le ciel ou l'enfer. On devra toujours le lui rappeler, y compris d'ailleurs aux vieillards. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est dès cet âge-là qu'il faut commencer. Il n'y a pas à se dire que ces vérités sont traumatisantes et qu'on en parlera plus tard, ce n'est pas vrai. Il n'est pas besoin de dramatiser, il n'est pas besoin de menacer, ce n'est pas dans la méthode de Saint Jean Bosco d'ailleurs, mais il faut rappeler ces vérités qui sont d'autant plus à la portée du jeune qui n'est pas encore attaché à la vie. Nous arrivons à l'âge de l'adolescence. On croit d'habitude que l'âge de l'adolescence est celui où on acquiert des convictions, et pas du tout. On doit entrer dans l'adolescence avec des convictions profondément ancrées dans l'intelligence et la volonté. L'adolescence est encore moins l'âge de la crise, et la crise de l'adolescence, il faut que jeunesse se passe, etc. C'est dramatique ça. Comme si Dieu avait prévu l'évolution normale du jeune à travers une période de péché presque, de révolte. L'adolescence est un âge difficile, ça c'est vrai, parce que c'est la première fois que le jeune découvre le monde et qu'il doit se conduire par soi-même, et il n'en a pas encore l'habitude et l'expérience. Et voilà pourquoi il a encore besoin d'être guidé, et on ne peut pas l'affranchir complètement de l'obéissance. Mais l'adolescence n'est absolument pas une période de crise, c'est au contraire une période d'épanouissement. On apprend à mettre en œuvre les vertus et les convictions acquises dans la première enfance. C'est l'âge de l'acquisition de l'expérience, expérience de la vie en société, fuir les mauvais camarades, les occasions dangereuses. À 7 ou 8 ans, vous voyez, on ne dit pas à un jeune qu'il doit fuir les mauvais camarades. On lui dit « je ne veux pas que tu ailles avec un tel ». Ou au contraire, « je veux que tu ailles avec un tel ». Quand on entre dans l'adolescence, il faut répéter cela, bien entendu, mais c'est à lui de discerner les mauvais camarades aussi. Il y en a qu'il ne peut pas discerner et on va lui dire « je ne veux pas que tu ailles avec un tel », c'est d'accord. Mais il y en a qu'il peut déjà discerner et il sait qu'il y a des camarades qui entraînent à la désobéissance, au mauvais esprit, à la révolte, voire même au vol. Bref, à faire des choses en cachette. Eh bien, ce critère de la désobéissance et de faire les choses en cachette est un critère suffisant pour que le jeune sache discerner les mauvais camarades sans qu'on ait besoin de leur dire expressément qui on veut qu'il fuit. De même, le critère de la piété, de l'obéissance, de l'humilité est un critère suffisant pour que le jeune se fasse des amis profitables, peut les favoriser, mais sans qu'on ait besoin nécessairement de les lui imposer. C'est l'âge, l'adolescence, de l'acquisition de la vertu de prudence, apprendre à mettre en œuvre les moyens de la vie chrétienne et de la vie humaine, mais la vie humaine reste une vie chrétienne. Donc ça, c'est très important. Il n'y a pas d'un côté la vie morale, la vertu de prudence et les vertus, de l'autre côté, le métier avec le rabot et les outils. Il y a des deux côtés la vertu et justement apprendre à découvrir que le métier va servir à se mettre au service de Dieu. C'est l'âge non seulement de la consécration pleine et entière à l'amour de Dieu comme dans la période précédente, mais de la consécration pleine et entière au service de Dieu. Le jeune découvre qu'il peut faire quelque chose et il faut lui montrer et l'encourager qu'il doit le faire pour le service de Dieu. C'est l'âge de la formation progressive à la liberté, c'est-à-dire à l'initiative, progressive. C'est l'âge du développement de l'apostolat. Bref, toutes les vertus que l'adulte doit pratiquer, avec cette différence que le jeune, contrairement à l'adulte, est encore guidé. L'obéissance est encore nécessaire, et qui dit obéissance dit accomplir l'œuvre, même si l'on ne comprend pas le pourquoi du commandement. Il suffit au jeune de savoir que ce commandement est donné pour son bien. Pourquoi l'obéissance est-elle encore nécessaire ? Parce qu'il n'est pas un homme. Parce qu'il n'a pas encore acquis toute l'expérience, parce qu'il y a encore des choses dont il n'est pas capable de mesurer la gravité. Une remarque pour terminer sur la puberté. La puberté n'est un problème que pour les jeunes qui n'ont pas été habitués à vivre sous le regard de Dieu, à pratiquer la délicatesse morale, à fuir le péché véniel, surtout le péché véniel de propos délibérés. La chasteté se conserve par la dévotion à la Sainte Vierge, il faut y croire cela. La dévotion à la Sainte Vierge rend une âme pure, et une âme qui est pure n'est pas attirée par l'impureté. La chasteté se conserve par les sacrements, par une grande ouverture de cœur et d'esprit à l'éducateur et aux parents. Il faut tout dire, surtout dans ce domaine, y compris dans ce domaine, aux parents de ne pas susciter des inquiétudes par des questions qui inquiéteraient, mais aux parents d'avoir suscité suffisamment de confiance pour recueillir toutes les confidences. Ne croyez pas, mes bien chers frères, que la chute dans les péchés contre la chasteté soit inévitable, ça n'est pas vrai. On le constate déjà chez les jeunes de Saint-Jean-Bosco, beaucoup avaient conservé l'innocence baptismale. Et moi, je l'ai constaté personnellement chez des jeunes dont je me suis occupé. Quand ils sont bien élevés, bien éduqués, les jeunes ne perdent pas l'innocence baptismale, c'est-à-dire qu'ils ne tombent pas dans le péché mortel. Cette méthode est très simple, cette méthode de collaboration du jeune à l'éducation qui lui est donnée, elle est très simple. Toute la méthode d'éducation de Saint Jean Bosco est très simple, à condition d'avoir une grande délicatesse d'âme, à condition de mettre en œuvre tout ce qu'on a appris, la fuite du péché, le ciel, l'enfer, l'amour de Jésus, l'amour de Marie et tout le reste, et l'obéissance bien sûr. Que Dieu vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.